remercier Philippe Gonigal et puis, toute son équipe, Pascal et puis Gilles, pour toute la préparation et puis tous ceux qui œuvrent, que je ne peux pas nommer, tellement ils sont nombreux, je pense, tous ceux qui œuvrent pour pouvoir avoir des conditions qui sont quand même vraiment top. RCF qui est là, Bopano, KTO, pardon.
Donc merci beaucoup pour cela. Également, je ne vais pas dire que vous m'avez manqué parce que je ne vous connais pas tous, voilà, mais par contre, le congrès m'avait manqué. Et puis en fait, ce que je vais vous raconter est le fruit de ces rencontres, de ces colloques, de ces congrès, de ces interactions qui font qu'il y a des fruits qui émergent et que on avance quoi. Donc moi je suis Christophe Fangot, je suis donc de l'IFEPSA, l'Institut de formation en éducation physique et en sport d'Angers. Et je suis maître de conférence en UCO IFEPSA, en psychologie, plutôt psychologie sociale. Mes travaux portent plutôt sur la motivation humaine et les raisons pour lesquelles les individus peuvent avoir dans les motivations des raisons de fluctuer, la dynamique, on appelle ça, de la motivation. Et donc, je m'intéresse à cela. L'IFEPSA, Pascal, ouais, tu peux passer. Donc, l'IFEPSA est une association à la base, qui est devenue une université et qui propose une formation STAPS. Donc, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et puis, je vais vous faire un tout petit topo là-dessus, parce que nul n'est parfait. Tout le monde n'a pas fait STAPS. Donc, Donc, les STAPS, là, en tout cas, chez nous, on a 1115 étudiants. On a accueilli 264 primants, mais auxquels s'ajoute un certain nombre d'autres étudiants de première année avec plusieurs formations. Ce que je veux vous dire également, c'est que quand moi d'ailleurs je suis rentré en STAPS, on rentrait en STAPS pour être prof de PS, ben c'est plus du tout le cas. Alors on en forme encore beaucoup bien sûr, mais notamment à l'IFEPSA, on a trois types après de formation après la première année, qui sont les métiers de l'enseignement, donc qui forment des profs de PS, les métiers de l'activité physique adaptée, qui sont là très en lien avec l'accompagnement thérapeutique par le sport, et puis enfin une filière management du sport, qui est toute la commercialisation du sport, de l'événementiel sportif, qui donc forme là des étudiants qui vont être en mesure de mener des projets autour de l'événementiel sportif. Quoi vous dire d'autre sur là d'où je viens, c'est donc dans l'ouest de la France, Angers, exactement les Ponts-de-C. On fait partie du CO, c'est-à-dire qu'on est sous convention pour pouvoir délivrer les diplômes, on est sous convention, donc avec l'Université catholique de l'Ouest. Voilà, tu peux revenir peut-être maintenant sur le diapo. Ouais. Donc le certificat que je vous présente, il va être organisé par l'IFEPSA. Donc là, moi, je suis le responsable qui m'a coordonné ça, parce que je suis à l'IFEPSA. Mais bien sûr que ce certificat, il n'a pas été inventé par moi-même. C'est vraiment le fruit de ces ensembles-là d'interactions et de rencontres qu'on a pu avoir, et notamment dans ce type de congrès et de colloques. Il va être porté, ce certificat, par la faculté de théologie. Donc on est quand même très content de pouvoir compter sur la faculté de théologie pour avoir quand même cette caution théologique, puisqu'on a une faculté de théologie à l'UCO. Sachez juste que en fait, l'ensemble de nos formations à l'IFEPSA sont elles portées par la faculté des sciences de l'UCO. Donc là, ce sera notre première formation à l'IFEPSA, qui sera portée par la faculté de théologie. En quelques chiffres, tu peux aller sur la diapo suivante. En quelques chiffres, la proposition serait une proposition de 54 à 104, en fait, ça dépend du nombre d'heures de stage, heures de formation, avec exactement 34 heures de formation, ce qui est un début, en fait. On a commencé pas petit, mais voilà, on va commencer sans grande prétention, avec entre 20 et 70 heures de stage pour pouvoir s'adapter à la réalité du terrain, et puis donc 3 temps de formation. On aimerait avoir un premier groupe de 25 étudiants, et puis donc voir après, mais on a la possibilité d'en accueillir plus, on pourrait faire plusieurs groupes, on sait faire. Donc voilà. En fait, également, il a fallu par rapport à la faculté de théologie, et puis après, donc, vous voyez là par exemple cette maquette ou les temps de formation, il a fallu convaincre la faculté de théologie. Et donc, il y a aussi des propositions, je vais vous présenter, qui sont issues aussi de cette interaction et de ces temps de rencontre. Je vais revenir sur l'origine et le contexte. Alors, pourquoi nous, on arrive là? Bah, parce que déjà, on fait partie quand même du giron catholique avec l'UCO, avec l'Université catholique de l'Ouest. Et puis, en fait, on a été contacté avec donc mon ancien directeur, Monsieur Philippe Mathé, pour participer à un document commandé par la Conférence des évêques de France, un document épiscopat sur le sport, Église et sport. Et donc, ça a commencé comme ça pour nous l'aventure. Donc, moi, j'ai écrit deux petits articles, voilà, là-dedans. Et puis, bah voilà, le réseau était commencé. Et puis, donc on m'a invité, je remercie encore, au congrès de la pastorale du sport à Orcines, donc en 2023, donc le dernier. Et puis, au sortir du congrès, ben voilà, dans les discussions, on me lance, et pourquoi tu ne ferais pas une formation? Pourquoi tu ne ferais pas donc un DU? On était parti plutôt sur un diplôme universitaire. Donc j'en parle à mon chef, qui dit bah ouais, c'est une bonne idée, ok, bon. On en parle à la faculté de théologie, le doyen, qui nous dit ben non, 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 c'est pas une bonne idée. Le sport, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse du sport, quoi? Donc voilà, mais il n'avait pas totalement tort dans le fait que c'était difficile de convaincre le doyen de la faculté de théologie, dans la mesure où il n'y a pas encore de métier de sortie. C'est-à-dire, l'aumônier du sport, proprement dit, pour l'instant, n'existe pas en termes de statut juridique comme l'aumônier d'hôpital, quoi. Donc, on a réduit la voilure et on a travaillé donc sur un certificat avec Pascal, avec Philippe, avec Isabelle, avec Gilles, le coq, j'espère ne pas en oublier. Mais donc, voilà, il y a toute une équipe là qui a bien voulu essayer de réfléchir à cela. Et puis, donc, moi, après, j'allais porter le plan de formation à la faculté de théologie et aussi à mon chef. Ensuite, dans cette origine et contexte, on peut dire que, ben voilà, et ça vous a été présenté, hein, les Jeux de Paris ont été une confirmation de l'intuition qu'on avait qu'il fallait faire une formation autour de la pastorale du sport. Et donc l'expérience des Jeux nous montre que, ben, en effet, c'est quand même quelque chose de sérieux qui touche la totalité des personnes, en tout cas de ceux qui veulent être accompagnés spirituellement. Et puis le coup de grâce, c'est la lettre de Monseigneur Gobillard, qui en fait demande aux évêques de nommer dans chacun des diocèses, me semble-t-il, ça ne doit pas être dans chaque paroisse, mais ça doit être dans chaque diocèse, dans chaque diocèse, un responsable, en gros, de l'animation du sport dans leur diocèse, quoi. Donc là, bah, voilà, le doyen de la faculté de théologie a été obligé d'accepter, pas d'accepter, mais de se dire, bah oui, en fait, il y a quelque chose de sérieux autour de cette histoire-là. Oh. Donc, on a pu être soutenu, et puis j'ai aussi changé de directeur, qui est ici présent, Nicolas Hoff, qui est totalement partie prenante du projet. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc notre cible, ce serait, et donc c'est pas hiérarchique, hein, je les ai mis en tête parce que j'ai pensé à eux en premier, ce sont donc les étudiants de l'UCO à qui on pourrait ouvrir, hein, ce certificat, donc de l'Université catholique de l'Ouest, mais on pourrait dire en fait à l'ensemble des étudiants, voilà, tout simplement. On s'adresse également à l'ensemble des responsables pastoraux qui pourraient là du coup prendre une part sur la gestion de l'activité physique et du sport dans leur diocèse, dans leur paroisse. Bien sûr, aux personnes qui vont être nommées par chaque évêque dans chaque diocèse. Et donc là, on va s'adresser à ces personnes-là qui vont être nommées et pour lesquelles les évêques pourraient donc avoir connaissance, bien sûr, hein, de ce certificat et dire, bah, puisque je te nomme, je t'envoie en formation, quoi. Les enseignants de PS pourraient être également intéressés par ce certificat qui donc leur permettrait d'avoir un peu plus de formation sur les dimensions spirituelles de leur accompagnement dans l'enseignement. Et puis, bah, bien sûr, hein, les aumôniers qui ont participé au jeu. J'avais 39 en tête, mais je ne sais plus exactement. Mais donc, ouais, une quarantaine. Voilà. Et puis, Isabelle donc l'a dit tout à l'heure, perspective pour les Alpes 2030. Et puis, voilà quoi. Notre cible également, ce sont tous les établissements qui accueillent du public. Et donc là, la loi française nous permet de faire ça. C'est-à-dire donc tous les internats, les établissements scolaires. Et où donc par exemple les responsables d'internat pourraient être intéressés d'utiliser le sport dans leur internat, donc, pourquoi pas dans l'enseignement catholique, mais donc également pour ces sportifs qui voudraient avoir un accompagnement spirituel. Donc dans tous les centres de loisirs et où donc les patronages, mais si j'ai bien compris, ils sont déclarés comme des centres de loisirs, on pourrait là aussi intéresser ces personnes qui pourraient donc utiliser l'activité physique dans le patronage, et on sait que c'est fait. Bien sûr, la FFCF, et puis Forma, quoi. Voilà. Les enjeux de formation, ah, j'aurais pu grossir un peu le trait. Bon. Les enjeux de formation, en gros, ce serait de former des étudiants, on va dire, qui seraient en capacité de proposer des activités sportives. Dans un accompagnement de la foi catholique, c'est-à-dire des sportifs qui se questionnent sur les sacrements. Voilà. Donc déjà là, ils pourraient avoir des réponses. Accompagner, pourquoi pas, dans les paroisses, les différents groupes de prière, de réflexion et de découverte de la foi catholique. Bien sûr, et je vais avoir un petit mot par rapport à ça et par rapport à la loi. Bien sûr, uniquement pour ceux qui tapent à la porte. Ce serait aussi la possibilité d'avoir des personnes formées sur la proposition d'événementiels sportifs qui ont une portée spirituelle. Il y en a déjà plein dans l'Église catholique, les périsportifs, VTT, les camps ski et toutes en fait les activités physiques qui pourraient être proposées avec cette dimension spirituelle. Ça se fait déjà. Et puis donc le champ des sportifs et pourquoi pas donc des sportifs de haut niveau, mais pas que au final, mais donc de proposer un accompagnement, hein, plutôt des sportifs dans leur cheminement spirituel. Ok. Le programme qu'on a conçu, il tient en quatre axes. Un premier axe de racines théologiques, en gros, les fondements théologiques de la relation entre le sport et la foi catholique. Et donc là, il s'agit d'explorer les liens qu'il y a entre la foi chrétienne et la pratique du sport. Et donc, on aurait quatre temps possibles autour de la théologie pure, la relation à l'incarnation. Okay. La théologie appliquée au sport, et là, on pense plus aux travaux d'Alessandra Maigre qui a fait sa thèse en théologie sur cette question-là. Une anthropologie biblique. Et puis la question de l'éthique, de la morale, de la déontologie dans le sport. Donc les enjeux de ce que pourrait être un sport sain. Et puis donc les dérives également possibles, quoi. Donc plutôt quelque chose là qui vient enraciner les étudiants dans les fondamentaux, on va dire. Un axe 2, beaucoup plus associé donc à la pastorale du sport et à ce qu'on pourrait proposer, à ce qu'on pourrait faire en termes de pastorale du sport. Et donc là, à partir de l'ancrage théologique, on pourrait essayer de faire des propositions de pistes concrètes On a comme idée de mettre les étudiants en stage et donc d'aller goûter le terrain. Mais donc là, on pourrait aider les étudiants à discerner ce que c'est que la pastorale du sport, des propositions d'accompagnement pour les sportifs, ce que c'est qu'une aumônerie du sport, et puis quelque chose de plus spécifique, parce qu'on l'a dit, c'est un public particulier, l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Okay, donc on aurait quelque chose autour donc de cet axe-là. Un axe 3 qui est obligatoire, hein, qui est déterminant, c'est le côté législatif, on ne peut pas y couper. Donc dans les DU, c'est quelque chose d'hyper important, et on pensait que dans notre certificat, qui est une première étape, hein, c'était incontournable. Donc là, bah, c'est la connaissance de la loi française. Alors à la fois sur la laïcité, et donc l'évolution aussi de ces lois en France sur la laïcité dans le sport, et à la fois la législation autour de l'encadrement des activités physiques. Parce que donc en fonction des activités physiques que vous proposez, bah, vous n'avez pas la même législation, en tout cas vous avez un cadre légal à respecter en fonction des activités, le nombre de pratiquants que vous pouvez avoir. Voilà, à partir du moment où vous vous déplacez, il y a une législation, il y a un cadre légal à connaître. Et puis enfin, un dernier axe qui nous avait été proposé là plutôt par la fac de théologie, et on a trouvé que l'idée était vraiment bonne, d'avoir les étudiants en termes de reprise d'expérience. Puisque on voudrait les mettre en stage, on pourrait avoir des temps où avec eux, en gros, on relie, quoi. Et ça, nous, dans la foi chrétienne, on sait faire, puis c'est notre truc. Voilà, on prend le temps. On analyse, on relie les choses pour discerner, quoi. Donc avoir aussi un petit peu ce temps-là. Au niveau de la planification, on a déjà posé la date de départ. Ce serait le 24, 25 et 26 août 2026. Et donc, on découperait ce que je vous ai présenté sur les quatre axes. On découperait en deux. Une première partie au mois d'août, et une deuxième partie après avoir vécu des stages d'application entre février et juin. Il faut encore qu'on se calme là, voilà. Mais donc l'idée, ce serait ça. Donc ça veut dire une première base au mois d'août, les étudiants partent en stage, donc des stages d'application qui permet de concevoir, et puis d'être sur le terrain de la mise en œuvre donc des propositions de pastorale du sport. On peut penser que pour certains, il y a déjà des choses qui sont en place et donc qui vont être dans la continuité. Et pour d'autres, les choses ne sont pas en place et donc ils vont aller chercher cette mise en application. Ça peut être aussi l'occasion dans les diocèses de forcer le trait et donc d'avoir des personnes qui, parce qu'ils sont en formation, ils viennent avec cette caution-là de la formation, ils viennent accompagner les sportifs ou faire donc des propositions de pastoral. Et puis donc après cela, donc une deuxième partie, je vous dis entre février et juin, il faut encore caler les choses, 2027, où donc on continue la formation sur les quatre axes que je vous ai présentés, et puis bien sûr on relit sur l'axe 4, on relit ce qui a été vécu. Je trouvais que ce que vous avez pu dire en termes d'expérience partagée sur ce qui a été vécu là sur Holy Games en dit long sur la nécessité de relire avec les étudiants ce qu'ils ont pu vivre, quoi. Voilà sur la présentation en gros du certificat. De mon point de vue, l'enjeu, il est double. Il est de permettre aux étudiants d'avoir une légitimité. Parce que, ben, on le sait, qu'on en a besoin. Monseigneur Bobillard a pu aussi en parler. Père Gilles a pu aussi en parler. Pour un certain nombre, à quoi bon? À quoi bon? Le sport? Mais pourquoi faire? Ben, je suis formé. J'ai une formation pour. Et mon évêque m'y a engagé. Et donc, du coup, on pourrait, là, avec donc ce type de formation, poser une espèce de légitimité. Et puis, bah, donc, le deuxième enjeu, ou plutôt risque à rechercher, bah, c'est on prend les choses au sérieux et on pense que vraiment il y a besoin de formation. Il y a besoin d'accompagner des personnes qui seraient chargées de s'occuper de ces questions-là. Enfin, dernier temps, à la base, il s'agissait donc de faire un DU, un diplôme universitaire. Donc là, ce n'est plus le même cahier des charges en termes de compétences, en termes d'accompagnement, en termes d'heures de formation. Mais donc ça, c'est l'espérance, quoi. On vise cela. Donc, mais pour l'instant, on est sur le certificat. Voilà, et donc je remercie vraiment ce type donc d'organisation, les congrès, parce que ben voilà, ça permet d'aboutir à des réflexions comme celle-ci, puis de voir après où est-ce que ça va nous mener, quoi. Mais bon, ça donne du fruit, c'est indéniable.
Oui, moi j'en ai une. Je voulais savoir pour préparer votre projet, votre dossier, si vous vous étiez rapproché du sport professionnel, du sport amateur et aussi du comité olympique.
Alors, le lien avec le sport amateur et le sport professionnel, on l'a dans le giron de notre formation, la formation STAPS. On est en permanence en lien avec cet environnement-là. En ce qui concerne le CIO, pour l'instant, donc moi, je m'en suis pas...
C'est national.
J'ai pas compris. La question qui m'a été posée, c'est CNE.
CNO.
Ouais, ok. Et donc, là, pour l'instant, moi, je n'ai pas géré cette partie-là, mais au contraire, oui, tout à fait, c'est quelque chose que l'on peut intégrer. On pensait aussi à, non pas au plan de formation, mais au CPF, quand il y a encore pas mal de choses à pouvoir finir de peaufiner. Mais oui.
Parce que je pense que ça peut vous permettre de traiter les objections possibles quand le dossier sera en place.
Les objections.
Vous pouvez avoir des objections de ces entités-là et vaut mieux les, à mon avis, vaut mieux les consulter avant que le dossier soit mis en place.
Merci pour la présentation. J'aurais aimé connaître donc le modèle économique, c'est-à-dire que de quelle manière quels sont les critères pour pouvoir choisir ou bien distinguer les futurs étudiants qui vont rentrer, quels seront les tuteurs et derrière quels sont les droits d'entrée pour entrer dans cette formation.
En fait, comme l'ensemble des formations universitaires que l'on a, il faut avoir le bac, ok, pour pouvoir rentrer donc sur un certificat, et ensuite, honnêtement, c'est quartier libre. Hein. On ouvre. Ah oui, on ouvre. Comme a pu le dire Mgr Gobillard, on va juger personne sur ceux qui veulent rentrer en formation. Donc on ouvre le plus possible. Et puis, donc, le coût de formation, on serait aux alentours entre 5 et 700 euros.
Tout en sachant que selon les candidats, il y a une partie qui pourrait être prise en charge, notamment quand c'est un responsable de la pastorale du sport qui est envoyé par son évêque, il y aura une partie ou entièrement, ça dépendra de l'évêque, qui sera pris en charge. Après, si c'est des profs d'EPS, d'enseignement catholique, ça peut aussi être au niveau de l'établissement, si elle fait CF, enfin voilà. Il peut y avoir, quand c'est au niveau de, voilà.
Et la question des tuteurs, je ne l'avais pas traitée. Je vous remercie.
Voilà. Oui, parce que comme vous parlez de stage,
mais donc on peut assez facilement se dire que le tuteur sera celui qui est... pas le supérieur hiérarchique, mais qui est un tout petit peu plus haut dans la fonction, dans le lieu de stage, quoi. Mais ouais, je n'avais pas traité. Merci.
Et le SGEC?
Le syndicat, là, forcément, il sera aussi...
L'enseignement catholique.
Ça. Dans la mesure où on s'adresse aux enseignants de PS, dans la mesure où également l'UCEL est intéressé, c'est forcément, alors après, peut-être sur des avis consultatifs, mais oui, c'est, c'est aussi une institution à informer, prévenir. Voilà.
D'autres questions? Oui. Oui.
Vous avez une question. Vous faites ça à un statut de l'ISPEC. Ça fait partie de la galaxie d'ISPEC. Donc, effectivement, c'est.
Vous avez un lien.
Voilà.
Donc le certificat ne donne pas le droit à des crédits, les ECTS, qui permettent après d'être comptabilisés dans le parcours de formation. Donc c'est le certificat est, on va dire, une première étape. C'est une reconnaissance institutionnelle, universitaire, d'une formation qui a été posée. Le diplôme universitaire, lui, donne droit à, donc un diplôme, qui donne droit à des crédits en ECTS qui sont reconnus au niveau européen. Le cahier des charges n'est pas le même. Sur un certificat, on fait non pas ce qu'on veut, mais par exemple, on n'a pas de minima, de maxima d'heures, alors que sur un diplôme universitaire, vous avez un minimum de 200 heures de formation. Vous avez des stages qui sont obligatoires. Et vous devez remplir, au niveau de vos compétences, vous devez vous caler sur la fiche RNCP, qui est donc là. Donc vous avez des incontournables que vous avez beaucoup moins dans le certificat.
Pourquoi vous n'avez pas fait le choix de directement chercher quelque chose qui serait obligatoire au RNCP, qui permettrait un financement par les gens qui suivraient votre formation? Pourquoi ce choix-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez dans l'avenir ou...
Oui, c'est
ou
ça.
Vous tout de
suite, on en a parlé ce midi.
Pas le RNCP, parce que c'est trop compliqué le RNCP.
Non, en fait, c'est tout à fait faisable. C'est juste que ça n'est pas une obligation sur le certificat. Donc, on peut y aller et donc faire reconnaître notre formation. Tout à fait.
Oui,
c'est tout à fait possible. Et en effet, on en parlait d'ailleurs ce midi, ouais. du compte. CPF, ouais. C'est une voie à explorer également.